Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant l'évangile de Saint Jean. Nous arrivons à l'étude numéro 6. Le titre pour aujourd'hui sera « L'ennemi redoutable ». Dans les 5 premiers chapitres, j'ai abordé quelques-unes des plus grandes questions de la vie en m'appuyant sur la vie de Jésus telle qu'elle est décrite dans l'évangile de Saint Jean. Pour ce faire, j'ai décortiqué les récits de ses rencontres avec des personnes ordinaires, des rencontres qui ont changé pour toujours la vie des 10 personnes. Mais comment est-il possible pour nous, de rencontrer Christ aujourd'hui? Dans ces études de cas, nous avons observé plus d'une fois qu'il n'était pas là d'abord pour montrer l'exemple, il n'avait pas pour tâche de présenter des réactions modèles. Il n'était pas non plus d'abord un enseignant qui fournissait uniquement des réponses. Non, non, non. Il est venu en sauveur pour être la réponse aux grandes questions. Jésus est venu faire pour nous ce que nous ne pouvions pas espérer faire seuls. Si nous voulons que notre existence soit changée à jamais, nous avons, nous aussi, à le rencontrer comme un sauveur. Pour cela, nous avons besoin de voir ce qu'il a fait pour nous. C'est dans les événements majeurs de sa vie que nous percevons avec le plus de clarté possible comment il est devenu un sauveur pour nous. Par conséquent, dans les 5 dernières études, je vais me pencher sur certains de ces événements déterminants qui déterminent tels qu'ils sont présentés dans notre Nouveau Testament. Vous vous demanderez peut-être pour quelle raison j'ai laissé tomber les 3 événements les plus connus de la vie de Jésus, tels que sa naissance, sa mort et sa résurrection. Eh bien, c'est que, étant donné que nous les connaissons, on peut dire, le mieux, leur signification est généralement plus claire pour nous. Donc, sans l'incarnation, par exemple, Jésus n'aurait pas pu, jamais aurait-il pu devenir humain et être puni à notre place, à ma place. La crucifixion signifie donc qu'il y a une solution à la culpabilité, qu'il y a un pardon pour le péché. Quant à la résurrection, elle indique que nous aurons un jour un nouveau corps, signe de notre triomphe sur la mort. Tous ces événements grandioses et miraculeux de la vie de Jésus sont évidemment cruciaux et chacun d'eux a été analysé dans une certaine mesure dans les chapitres précédents. Dans les pages qui suivent, eh bien, on peut dire les pages du Nouveau Testament, vous l'avez compris, car c'est là que nous prenons l'essence même de nos études. Nous allons examiner des épisodes moins bien connus qui nous plongent encore plus profondément dans ce que vraiment Jésus a fait pour nous sauver. Il triomphe du mal pour nous, chapitre 6. Il intercède en notre faveur, chapitre 7. Il obéit avec perfection pour nous, chapitre 8. Il quitte la terre dans le but de régner pour nous, chapitre 9. Et il abandonne les cieux pour venir mourir, oui, mourir pour nous, chapitre 10. Chers amis, penchons-nous d'abord sur les débuts de la vie publique de Jésus. Deux événements consécutifs l'ont préparé à la carrière qui a le plus changé le cours de l'histoire. Dans trois des quatre évangiles, ces incidents, tels que le baptême de Jésus, suivi de sa tentation par Satan dans le désert, sont présentés ensemble. Et je crois qu'il y a une bonne raison à cela. Voici, par exemple, l'histoire telle qu'elle nous est racontée dans l'évangile de saint Matthieu. Il est dit que Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain vers Jean, Jean le Baptiste, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait. Il s'y est opposé en disant, « C'est moi, c'est bien moi qui aurai besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi, toi qui viens vers moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissons ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur Jésus, sur lui, Jésus. Et au même instant, une voix s'est fait entendre du ciel avec ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » Ensuite, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui et lui dit, « Puisque tu es le Fils de Dieu, si vraiment c'est le cas, alors ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus lui répondit, « Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, alors jette-toi en bas. » En effet, il est écrit, « Dieu donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit, « Mais il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Alors il lui montra tous les royaumes, tous les pays du monde et leur gloire. Et il lui dit, « Je te donnerai tout cela si seulement tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus lui dit alors, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Alors le diable le laissa, et voici, que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Saint Matthieu, chapitre 3, verset 13. Notez cela jusqu'au chapitre 4, verset 11. Voyez-vous, mis à part la crucifixion, le baptême est le seul événement de la vie de Jésus qui revient dans les quatre évangiles. C'est un événement crucial, mais c'est seulement ici, dans le texte de Saint Matthieu, que la scène de la tentation est racontée en détail. Et il importe de remarquer comment le baptême et la tentation sont étroitement liés par le seul mot « puis ». Puis. Puis Dieu vient d'exprimer des propos porteurs d'une puissante assurance. D'une puissante assurance. Où il dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Puis ensuite, Jésus est conduit par l'Esprit dans le désert pour y être tenté par le diable. Puis, ce fameux « puis » que l'on peut aussi traduire par « alors » est presque synonyme de « par conséquent ». Après les encouragements et après les faveurs, viennent la mise à l'épreuve de la tentation. Personne ne peut s'assurer une existence faite uniquement de succès, de joie et d'approbation. Peu importe nos efforts, les précautions que nous prenons ou les bonnes situations, quelque chose vient un jour ou l'autre, tout ruiner. Même les personnes les plus talentueuses, les plus zélées et les plus pragmatiques sont touchées par les hauts et les bas de la vie. Mais direz-vous, qu'arriverait-il si nous jouions mieux notre rôle, si nous menions une bonne vie et obéissions à Dieu? Si nous lui adressions chaque jour des prières pour lui demander de nous protéger de toutes les souffrances et de toutes les difficultés, alors je pourrais vous répondre, bien entendu, faites-le et faites-le tout de suite. Peut-être pourriez-vous réellement venir à bout de toutes vos fautes et de tous vos défauts. Peut-être, j'ai dit peut-être, pourriez-vous devenir de grands sages et comprendre les façons de faire de Dieu, le cœur de l'homme, les époques et les saisons, de manière à toujours prendre des bonnes décisions. Et encore peut-être pourriez-vous avoir foi en Dieu sans jamais vaciller. Peut-être encore, votre vie pourrait-elle lui plaire entièrement? Alors certainement, Dieu vous protégerait. Votre propre sainteté et votre propre sagesse vous protégeraient également et tout dans votre existence irait toujours bien. Pas vrai? Peut-être pas tellement. Car en réalité, tout cela est faux. Quelqu'un a réussi à vivre ainsi. Dieu le Père a dit que Jésus, son fils bien-aimé, avait toute son approbation, mais pas vous et moi. L'Esprit de Dieu est descendu vers lui pour le guider. Et voyez ce qui se passe. Il est aimé, confirmé et habilité par Dieu. Et puis, ensuite, il est envoyé dans les griffes du diable. Ça, c'est beaucoup moins marrant. Voici donc l'ordre dans lequel les choses se passent. L'amour et la puissance de Dieu. Ensuite, on voit le mal, on voit la tentation, on voit le désert, on voit une faim et une soif terrible. Ce petit mot « puis » est assez extraordinaire. C'est presque comme si Saint Matthieu nous disait « Écoutez bien, personne n'est à l'abri des vicissitudes de la vie, ni vous ni moi. De fait, celle-ci frappe souvent les êtres que Dieu aime, car cela fait partie de son plan souvent mystérieux et bon pour nous amener à quelque chose de plus grand. Donc, tout cela confirme, en passant, que les amis, rappelez-vous les amis de Job, ils n'avaient pas tout à fait raison. Ils avaient même un peu tort. Vous vous souvenez peut-être que le protagoniste du livre de Job menait une vie exemplaire. Puis à peu près tout ce qui pouvait mal tourner dans sa vie a vraiment mal tourné. Il a perdu sa famille, il a perdu toute sa fortune qui était très considérable. Ensuite, il a même perdu sa santé. Il a été, on peut bien dire, envoyé, pour ainsi dire, dans le désert. Et ses amis, ils sont venus le voir là, dans le désert, et ont vu ce qui se passait. Et ils lui ont dit en gros ceci, « Regarde Job, notre vie est le produit de nos choix. » Si tu choisis la droiture et le bien, la tienne sera ainsi. Si Dieu t'aimait vraiment, il ne laisserait pas de telles choses t'arriver, jamais. Il doit être très fâché contre toi et contre les choix que tu as effectués. Et c'est ainsi que pensent bien des gens, et peut-être même pratiquement tout le monde. Lorsque des membres de la classe moyenne regardent les pauvres, ils présument que ceux-ci ne travaillent tout simplement pas, surtout pas aussi dur qu'eux. Lorsque des membres de familles aisées regardent les familles qui sont démunies et dysfonctionnelles, ils tiennent pour acquis qu'elles ne se sont pas vraiment souciées de bien faire les choses. Et peut-être qu'ils étaient trop nonchalants, trop enfoutistes. Si nous ne souffrons pas en ce moment, nous avons tendance à nous en attribuer le mérite. Il ne s'agit donc pas d'une chance ou d'une grâce. C'est parce que nous vivons bien et intelligemment. Ça semble tellement vrai. Peut-être pas tellement non plus. Car en réalité, dans Saint Matthieu chapitre 3, nous voyons le seul homme dans l'histoire qui ait vraiment, vraiment toujours eu un bon comportement et même, on peut quand même le dire, un comportement absolument parfait. Oui, c'est le seul qui méritait vraiment l'amour sans réserve de Dieu le Père. Il méritait un sauf-conduit pour échapper à la souffrance et au désagrément de l'existence. Or, sa vie a été terrible. La scène de la tentation n'en est que le début, ou, on peut bien dire, le premier acte. Suivront progressivement le rejet, les tentatives de meurtre à son encontre, la trahison, la pauvreté, le deuil, la perte, la torture, et enfin la mort à la croix. Cet homme sera jugé et exécuté en toute injustice. Après son baptême, on peut quand même dire que tout ira mal pour Jésus. Oui, le seul homme dans l'histoire qui a vraiment toujours eu un comportement parfait, c'est Jésus. Or, sa vie a été terrible. Qu'est-ce que cela nous apprend à nous? Tout d'abord, cela nous montre la puissance, la complexité et le caractère insoluble du mal dans le monde. Certains non-croyants considèrent que le monde est composé strictement de forces matérielles. Il n'y a ni âme, ni esprit, ni ange, ni démon. Tout a une explication scientifique absolument naturelle. Selon ce point de vue, nous pouvons régler le problème du mal dans le monde, si même il existe, en introduisant les ignorants, de les instruire correctement. En les instruisant correctement, tout ira bien. Et en modifiant les systèmes sociaux et en fournissant de meilleurs traitements psychologiques et pharmacologiques. Pourtant, à maintes reprises, au cours du siècle dernier, les penseurs occidentaux ont eu de nouvelles occasions d'être choqués par la profondeur et par la puissance des forces du mal dans le cœur des hommes et dans le monde. N'oublions pas tout de même, c'est pas si vieux que ça, la Deuxième Guerre mondiale. Et la Troisième, elle est à la porte. C'est pas très drôle tout ça. C'est très angoissant. Or, la Sainte Bible peut combler ce fossé et expliquer tout ce que nous vivons à titre personnel et tout ce dont nous avons été témoins dans le courant de l'histoire. Elle dit que le mal a plus de facettes. Il a plusieurs facettes. A plus de nuances et de complexité que les sciences ne peuvent le laisser croire. Elle soutient qu'en plus des injustices systématiques, de l'ignorance personnelle et des déséquilibres psychologiques, il existe vraiment dans le monde des forces du mal spirituel. Je répète, des forces du mal spirituel. Derrière toutes ces forces, il y a une intelligence surnaturelle. La société occidentale ayant largement rejeté cette dimension du mal présente dans la Sainte Bible, tout comme les fameux amis de Job, eh bien, nous sous-estimons toujours et encore son pouvoir, le pouvoir du mal dans notre vie. Parfois, nous posons un mauvais diagnostic à son sujet. Ainsi, au plus profond de nous-mêmes, nous nous accrochons à l'idée simpliste que faire preuve de bonté nous garantira une belle vie. Pourtant, s'il y a des forces démoniaques, il est normal de penser qu'en réalité, la vraie bonté et la vraie piété attireront ces puissances et les inciteront à attaquer. C'est exactement ce qui se passe dans le récit du baptême et de la tentation. Croire que notre bonté morale nous garantit une bonne vie correspond aussi à une interprétation simpliste des buts que Dieu a pour nous. Dieu, il est infiniment sage. Il peut voir la fin dès le début. Et il a de bons projets pour nous de l'autre côté du désert. Notez Romains, chapitre 8, verset 28. Tout comme l'exemple de persévérance dans la souffrance fournie par Job a aidé, rappelez-vous, des millions de personnes, tout comme les tentations de Jésus l'ont préparé à un ministère public qui a changé le cours de l'histoire et qui a offert le salut au monde. L'Esprit de Dieu nous mène donc au cœur du désert pour notre bien. Si nous sommes constamment choqués par le caractère insoluble du mal dans le monde, c'est en partie du fait ou au fait que dans notre modernité, nous voyons la Sainte Bible comme primitive, que c'est un livre caduc d'un passé tellement lointain que c'est fantasgoramotique, ou je ne sais pas comment le président Chirac avait dit ce mot. Et nous sommes insensibles à son explication de la réalité. Mais si la Sainte Bible a vraiment raison, et que ce type de mal existe vraiment, à quoi cela nous sert-il d'en savoir davantage à ce sujet? Eh bien, lorsqu'elle parle de nos rencontres avec le mal surnaturel dans notre existence, elle utilise le langage de la guerre. Oui, le mal, c'est au fond comme les bombes de Vladimir Poutine qui arrivent même à détruire les bunkers construits les plus solides du monde. Si vous ignorez d'où viendront les coups, ou bien si vous sous-estimez ou vous jaugez mal l'ennemi, vous perdrez probablement le combat. Mais si, en revanche, nous savons ce qui nous entoure et d'où vient l'attaque, comment pouvons-nous y faire face sans être écrasés? Examinons ce que le texte de Saint Matthieu chapitre 4 nous indique. Il nous montre que pour affronter le véritable mal, nous devons répondre à trois questions, c'est-à-dire qui est d'abord l'ennemi, deuxièmement d'où vient l'attaque et quelle est notre meilleure défense dans ce combat-là. Premièrement, qui est l'ennemi? Comme déjà signalé, le mal est perçu d'un point de vue biblique comme un problème vaste et complexe. On ne peut le réduire à des choix humains, à des systèmes sociaux ou à des problèmes psychologiques ni à un simple manque d'éducation. Du fait, on ne peut même pas le situer tout à fait dans l'ensemble de ses forces réunies. Nous ne pouvons pas non plus adopter la démarche consistant à désigner des boucs émissaires, démarche qui a causé énormément de ravages dans l'histoire et qui revient à affirmer que le mal est principalement causé par ces gens-là, là-bas. Ces gens-là peuvent être d'une certaine race, peuvent être classés socialement, selon les nations, selon les religions ou selon les idéologies politiques. D'après la Sainte Bible, le mal est à la fois naturel et surnaturel. Il est à la fois à l'intérieur de nous, n'oubliez jamais cela, et à la fois à l'extérieur de nous. Oui, il est donc individuel et il s'inscrit dans un système social. Il est humainement impossible d'y échapper complètement, jamais, ou même de le comprendre dans ses moindres détails. Historiquement, deux principaux points de vue se sont affrontés pour tenter d'expliquer la nature du mal. D'après la première approche du dualisme, le bien et le mal sont des forces égales et opposées dans le monde. La réalité repose fondamentalement sur le conflit entre ces deux forces qui vont se combattre jusqu'à la fin des temps. Cela signifie qu'il n'y a absolument aucun triomphe possible. Saint Augustin souligne dans la Cité de Dieu le caractère dualiste du paganisme. La plupart des religions païennes ont de bons dieux et de mauvais dieux. Ils ont des puissances bonnes et des puissances mauvaises. Cela signifie que le monde est fondamentalement et irrémédiablement un endroit violent et qu'il ne peut y régner ni ordre, je dis bien ni l'ordre, ni la beauté, ni l'espoir. Donc, il est constitué, ce monde-là, de multiples centres de pouvoir toujours en guerre, les uns contre les autres. Vous pouvez peut-être parvenir à créer un îlot de paix et d'ordre, mais quelque chose finira par le détruire. On ne peut pas vraiment espérer trouver un moyen de mettre un terme au conflit et d'apporter une paix durable. S'il vous plaît, écoutez bien ceci. L'autre approche philosophique du mal est le monisme ou le panthéisme. Cette conception se situe à l'opposé du dualisme. La réalité est une. Tout fait partie de Dieu. Dieu est tout. Et par conséquent, tout finira par faire un avec tout. Les individualités sont en quelque sorte une illusion. Nous sommes tous liés d'une façon profonde, pas simplement par notre expérience commune de l'humanité, mais, en fin de compte, amalgamés les uns aux autres. C.S. Lewis, il relève que le panthéisme peut regarder une personne atteinte du cancer ou vivant dans une pauvreté extrême et de dire simplement: si vous pouviez considérer ces faits seulement du point de vue divin, vous vous rendriez compte que c'est Dieu. Et encore, c'est lui. Et dans cette vision des choses, contrairement au dualisme, le mal et la souffrance ne sont pas éternels ni insurmontables. En fait, ils n'existent pas vraiment. Et ils peuvent être assimilés simplement à une illusion. Oh là là, il est intéressant de noter que la société profane moderne aborde le mal de façon plus fragmentée et incohérente en empruntant à ces deux approches qui viennent d'être mentionnées. D'une part, comme dans le polythéisme ancien, on voit le monde comme n'ayant pas été créé par un seul artiste tout-puissant, mais comme étant le produit simplement de forces violentes et indomptables. Non seulement l'univers physique est le produit, d'une série interminable d'explosions, c'est ce qu'il nous montre maintenant, et de combustion, mais nous-mêmes ne sommes que le produit de l'évolution, de la survie du plus fort. Si cette représentation du monde est exacte, il n'y a pas de remède à la violence, puisque elle imprègne toute la réalité. Nous sommes donc arrivés ici par des moyens violents et vides de sens, et nous continuerons d'exister et d'évoluer de la même façon. En même temps, de nombreux penseurs non-croyants considèrent le mal humain comme étant le résultat de mauvais systèmes sociaux ou de maladies psychologiques. À la fin du premier livre de la série de Harry Potter, j'aime pas beaucoup vous parler de ça, c'est pas mon truc, mais je veux vous dire quelque chose, parce qu'il y a trop de monde qui a regardé tout ça, malheureusement. Donc, à la fin du premier livre de la série de Harry Potter, J.K. Rowling fait dire à la personne manipulée par ce sombre Voldemort, « Voldemort m'a montré qu'il n'y a pas de bien ni de mal. Il n'y a que le pouvoir, la force, the power. » Cela signifie, je crois, que nier l'existence du mal fait partie des pires choses possibles. Ça, c'est exactement ce que Satan veut, bien sûr. De façon intéressante, le christianisme ne penche ni vers le dualisme, ni vers le monisme. Il mentionne quelque chose que vous considérerez peut-être comme légèrement plus plausible qu'auparavant, c'est-à-dire un véritable diable. S'il est vrai qu'il existe effectivement des forces démoniaques, on ne peut pas réduire le mal dans le monde à des choix humains. Ne vous méprenez pas, les êtres humains sont tous en mesure, par eux-mêmes, de commettre de grands péchés. Si bien évidemment, ces choix humains immoraux représentent un élément important de la matrice du mal dans le monde. Croyez-vous que ce qui a existé dans les camps de Buchenwald et autres, c'était une illusion? Certainement pas. Hannah Arendt, elle l'a constaté. Lorsque elle a couvert par le New York Journal le procès d'Adolf Eichmann, qui était le chef du camp de la mort nazie, et qu'elle parlait alors de la banalité du mal, le système était bien plus cruel et destructeur que les milliers de personnes ordinaires qui le composaient. Il existe une force apte à faire grandir, complexifier et perpétuer les mauvaises choses qui naissent dans les systèmes sociaux et psychologiques du monde. D'après le christianisme, il y a plus de mal dans le monde qu'on ne peut l'expliquer par l'effet cumulatif de mauvais choix personnels. Et l'on peut tout attribuer cela à une partie de ce mal, à des forces démoniaques réelles. Car les forces démoniaques réelles existent bel et bien, car je pourrais vous raconter, et j'aime pas beaucoup cela non plus, parce que ça me rappelle des trop terribles choses. J'ai dû batailler personnellement contre des hordes de démons, et cela a pris plusieurs années. On croit des fois que on peut simplement imposer les mains, souffler sur quelqu'un, et puis hocus pocus, faire jouer des bousses, et tout s'en va magiquement. Non, 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 non. Pas du tout. C'est une bataille de vie et de mort. Vous pouvez me croire. Chers amis, toutefois, le christianisme n'est pas dualiste. Les forces démoniaques ne sont pas les égales de Dieu. Le diable est un ange déchu, n'oubliez jamais cela, qui est vraiment à la tête des anges déchus. Et Dieu est infiniment plus puissant. En fin de compte, non seulement il pourra les vaincre tous, mais il est certain que c'est ce qu'il fera. Et voilà donc la promesse et l'espoir électrisant, on peut dire, qui est insufflé par chaque page de notre Sainte Bible. Lisez un tout petit peu les évangiles, je vous en supplie. Moi, j'ai dû lire, j'ai honte de vous le dire, mais on doit être assez humble, puis de reconnaître que on est, comment est-ce qu'il faut dire, on n'est rien du tout parfois. C'était mon cas. J'étais un ignare en tout. Il a fallu que je lise 3 fois l'évangile de Saint Jean pour comprendre que j'étais perdu et que j'avais besoin de la main tendue de Jésus-Christ pour être d'abord pardonné et sauvé. Or, ma femme, beaucoup plus intelligente, il ne faut pas avoir honte de dire que si, dans un couple, l'épouse peut parfois être beaucoup plus intelligent que l'homme. C'était mon cas. Et elle a dû lire qu'une seule fois l'évangile de Saint Jean pour tout comprendre. Et elle a été immédiatement sauvée. C'était pas tout à fait mon cas. Chers amis, peut-être pensez-vous que l'existence du diable est une notion primitive, que c'est une croyance réservée aux gens très simples, un peu gaga. J'ai argumenté et j'affirme, sans vouloir offenser personne, que c'est tenter d'expliquer notre monde sans le diable, qui est un signe de naïveté. Il faut être naïf pour enseigner et croire cela aussi bien du point de vue spirituel qu'intellectuel. Poursuivons de façon plus pratique. Une fois que nous avons identifié l'ennemi, la deuxième question à nous poser, c'est d'où vient l'attaque? Que nous apprennent les Saintes Écritures, outre le fait que le diable existe vraiment, vraiment? Elle précise quelle est sa position, le principal point d'attaque. Vous aurez remarqué que le diable répète « Si tu es le Fils de Dieu, etc. » Cela correspond à son principal point d'attaque, non seulement contre Jésus, mais contre nous aussi. « Si tu es un enfant de Dieu, si tu es son serviteur, tu ne flancheras pas. Tu n'auras que la victoire, toujours la victoire. » Ce qui malheureusement n'est pas toujours le cas. C'est triste à dire. Mais passons. Dieu vient t'assurer à Christ qu'il est son bien-aimé fils et Satan l'attaque directement sur ce point précis. Essentiellement, il lui demande d'obliger Dieu à lui prouver en quelque sorte qu'il l'aime et lui donne ce dont il a besoin. Or, vous n'avez pas besoin de demander à quelqu'un des démonstrations extraordinaires, des garanties et des preuves, à moins que vous n'ayez des doutes. Et c'est le principal but de la stratégie de Satan, Il veut que Jésus perde la certitude, la conviction de sa pleine acceptation par Dieu, de cet amour paternel, inconditionnel. S'il s'agit du principal point d'attaque de Satan, comment s'y prend-il avec nous? Dans un premier temps, il veut nous empêcher de croire que Jésus est vraiment le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Remarquez les paroles que Dieu prononce du haut du ciel au moment du baptême. Il déclare, Dieu déclare, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Dieu nous renvoie au psaume chapitre 2, verset 7. Un chant sur le roi messianique de Dieu qui va éradiquer toute rébellion et tout mal dans le monde. Un chant, donc, « Ein Gesang ». Et il ajoute « qui a toute mon approbation ». Faisons ainsi allusion au serviteur de l'Éternel, un personnage mystérieux qui, selon Ésaïe, souffrira et mourra un jour pour faire disparaître les désobéissances du peuple. Notez Ésaïe, chapitre 53. Il y a là un Schlüssel, une clé importante pour comprendre l'ensemble de la Sainte Bible. Tout au long de l'Ancien Testament, comme dans le psaume chapitre 2, apparaît la promesse d'un grand roi messianique qui viendra et restaurera l'ordre dans le monde. Priez s'il vous plaît, mes amis, pour Israël. Oui, s'il vous plaît, pour que le plus grand nombre des Juifs puissent reconnaître que Jésus-Christ est leur Messie, s'il vous plaît. Beaucoup de Juifs l'attendaient avec impatience. Toutefois, il y avait aussi le serviteur souffrant de la prophétie d'Ésaïe, dont le rejet était annoncé, même si c'est par ses blessures que nous sommes guéris, Ésaïe 53, verset 5. Personne, avant que Dieu ne bénisse Jésus lors de son baptême, n'avait rapproché ces deux figures-là. Dieu cherchait à nous faire comprendre ceci. C'est-à-dire, Jésus n'est pas seulement un homme bon qui nous montre en parole et en acte comment nous devons vivre. Il n'est pas non plus seulement un souverain céleste qui est venu pour détruire tout le mal d'un seul coup. Comme nous l'avons vu, le mal est profondément ancré en nous. S'il était venu mettre sur le champ fin à tout le mal, il nous aurait tous éliminés par la même occasion. Au lieu de cela, il est le roi qui vient non pas sur un trône, mais sur une croix. Il vient pour être exposé à la tentation, mis à l'épreuve, pour souffrir et pour mourir. Pourquoi? Pour que nous, vous et moi, puissions recevoir l'amour de Dieu comme un cadeau. Oui, un cadeau. C'est ce que dit l'hymne devant le trône. Nous voilà pardonnés, car ton amour ne peut être surpassé. Donc, chers amis, Jésus est le roi qui vient non sur un trône, mais sur une croix. Eh oui. Par conséquent, dans la mesure où nous reposons sur ce que Christ a fait pour nous, pour vous et pour moi, nous sommes intégrés par adoption dans la famille de Dieu par pure grâce. Saint Jean, chapitre 1, verset 12. Cela signifie que nous pouvons savoir que nous sommes nous aussi les enfants bien-aimés de Dieu et qu'en Christ, nous avons son approbation. Cette assurance est la source de la joie la plus profonde et la plus vivifiante possible, d'une part, et de tout ce qui déplaît à notre Père, on peut dire, je répète, d'une part, je dois dire les choses correctement. Donc, d'une part, nous désirons tous nous détourner, vous et moi, de tout péché. Nous désirons cela, vous et moi, de nous détourner de tout péché et de tout ce qui déplaît vraiment à notre Père Céleste. Nous ne le faisons plus par peur d'être punis terriblement ou de faire nos preuves de telles motivations sont épuisantes et elles débouchent souvent inévitablement sur l'étroitesse d'esprit. Or, une attitude suffisante et la dureté de notre cœur, ces murs, on peut dire, sont mûs par une joie qui est pleine de reconnaissance. Nous devons avoir en nous une pleine reconnaissance et par un simple désir de ressembler, de désirer de ressembler à celui, à Jésus, qui nous a sauvés, qui t'a sauvé, toi qui écoutes, qui m'a sauvé, de lui plaire et de le servir, que nous réformons ainsi notre vie avec une efficacité toute nouvelle. D'autre part, les peurs, l'anxiété et les insécurités qui nous hantaient commence à se dissiper lentement, mais sûrement. Les succès et les échecs rencontrés dans notre travail ne nous remplissent pas d'orgueil. Bien au contraire, parfois de désespoir. Nous ne nous laissons plus guider par l'insatisfaction face à notre apparence ou à notre statut éventuel. Nous ne sommes pas découragés par la critique comme nous l'étions auparavant. L'image que nous avons de nous-mêmes, elle repose sur un amour que nous ne pouvons pas perdre ou plus jamais perdre. Comprenez-vous pourquoi? C'est là le principal point d'attaque de Satan. Il veut à tout prix, et bien entendu, empêcher les hommes, les femmes, d'acquérir ce genre de puissance. Ceux qui ne croient pas au christianisme, il cherche à les empêcher de voir la véritable nature de Jésus. Il veut qu'ils voient en lui un homme particulièrement bien. Ceux qui pensent adhérer au christianisme, mais ne saisissant pas encore que le salut est un vrai cadeau, un cadeau qui est reçu par l'entremise de Christ, il espère de les maintenir dans l'ignorance du véritable évangile. L'ennemi souhaite de les empêcher de saisir que nous sommes tous déclarés justes devant Dieu, c'est-à-dire par la foi. Je ne suis pas juste par moi-même. Je ne pourrai jamais prétendre une chose pareille. Ô Seigneur, je suis un misérable et tu m'as racheté, vraiment, tu as payé le grand prix pour me racheter, j'en sais quelque chose. Donc, je suis loin d'avoir atteint des sommités extraordinaires de sainteté, mais devant Dieu, simplement par la foi en Jésus, je répète, par la foi en Jésus, vous et moi, non pas par nos efforts moraux, mais uniquement par la foi et par la grâce que Dieu nous fait par Jésus-Christ. Nous sommes devenus justes, sauvés. Ceux qui ont la certitude d'être des fils et des filles adoptés par Dieu et aimés de lui, eh bien Satan désire qu'ils restent néanmoins accrochés à une image d'eux-mêmes, à leur propre image, fondée sur leur valeur morale à eux, leur bonté, s'il y en a, et leurs propres efforts. Alors là, il y en a parfois même beaucoup. C'est arrivé, tout cela, malheureusement, ceci est arrivé à un ancien pasteur. Alors qu'il délivrait ce que vous et moi appellerions des sermons chrétiens orthodoxes au plus profond de son cœur, Satan l'avait à la longue vaincu. Alors qu'avec sa tête et avec sa bouche, il disait « Nous sommes sauvés par Jésus et par la grâce. » Eh bien, son cœur lui disait souvent tout autre chose. Si le langage de son cœur avait été audible, on aurait entendu à peu près ce message-là. Voici comment je m'assure que je suis une personne bonne et honorable en étant simplement pasteur. En étant pasteur ou en étant prêtre, donc un curé, il n'y a rien de mieux que ça, car un pasteur, un curé, un prêtre, fait connaître, si possible, la vérité, apporte du réconfort surtout aux souffrants, aide les autres à remettre leur vie en ordre. En d'autres termes, sa tête avait beau affirmer que Jésus était son sauveur, il cherchait à être son propre sauveur. Par conséquent, alors que son église grandissait, que tout allait très bien pour son ministère et que ses prédications étaient populaires, il a commencé lentement, mais sûrement, à adopter une attitude froide, une attitude suffisante et supérieur. Ses sermons sont devenus plus caustiques. Il est devenu plus autoritaire et plus critique dans ses échanges avec les gens. Cela a déclenché plusieurs conflits avec des familles importantes qui ont fini par quitter l'Église. Et lorsque l'Église a commencé à battre de l'aile, il n'a pas pu le supporter. Il n'avait pas seulement perdu des paroissiens, mais il avait aussi perdu son identité. Alors il a commencé à boire pour apaiser sa douleur. Ensuite, il a eu des liaisons avec des femmes qui lui manifestaient l'admiration dont il avait tellement besoin. Son mariage, ses enfants, tout son ministère, tout s'est effondré. Que lui était-il arrivé à cet homme, à ce serviteur brillant? Eh bien, Satan avait gagné. Si le cœur était un moteur, on pourrait dire qu'il fonctionne avec deux sortes de carburant. Un qui l'alimente de façon propre et efficace, l'autre qui pollue, en plus de détruire le moteur. Le mauvais carburant, c'est la peur et le besoin de faire nos preuves, ou le besoin de nous sentir indispensables, ou du besoin de nous exprimer pleinement et sans aucune contrainte. Il y a de nombreuses sortes de carburants qui nous permettent de vivre pendant un certain temps, mais un seul est propre et ne débouche ou ne va pas boucher les choses, en fin de compte, sur la lassitude et sur la déception, eh bien c'est l'amour, l'amour que Dieu a pour nous. Les autres carburants ont tous un côté démoniaque, ils vont vous obséder, ou au mieux, vous lâcher en cours de route. Et lorsque ce sont eux qui alimentent votre existence, Satan vous tient à sa merci. La dernière chose qu'il veut, c'est que ce soit les mots de Dieu. Tu es mon enfant bien-aimé. Écoutez bien, Dieu vous dit, toi, ma fille, mon fils, tu es mon enfant bien-aimé qui alimente le moteur de ta vie et de ton cœur. Israël, c'était l'évêque anglican de Liverpool, en Angleterre. Or, dans un essai, une étude intitulée « Assurance », il écrit un texte très touchant sur ce phénomène-là. Écoutez ça. L'assurance contribue grandement à libérer un enfant de Dieu et lui permet d'avoir le sentiment de la grande question de la vie est une question réglée, la grande dette, une dette payée, les grandes maladies, des maladies guéries, les grands travaux, des travaux achevés, et que les autres questions, malades, maladies, dettes et travaux, sont en comparaison de peu d'importance. Et de cette façon-là, l'assurance le rend patient en période d'adversité, le rend calme en temps de deuil, le rend indifférent au chagrin, le rend inébranlable face aux mauvaises nouvelles. Grâce à l'assurance, il est satisfait dans toutes conditions et lui donne la constance du cœur. Elle adoucit ses calices amers, allège le fardeau de ses croix. Elle aplanit le chemin accidenté sur lequel il marche et qu'il éclaire ainsi la vallée de l'ombre de la mort. Elle lui fait sentir que ses pieds reposent sur quelque chose de très solide et qu'il tient quelque chose de ferme dans ses mains. Un ami fidèle, oui, un ami fidèle sur le chemin, une maison solide à destination. Oui, il y a une superbe expression dans le livre de la prière commune concernant le ministère auprès des malades. Cela dit ceci, le Dieu Tout-Puissant, il est un bastion solide pour tous ceux qui mettent en lui, en Dieu, leur espérance. Car à lui obéissent toutes choses au ciel, sur la terre et sous la terre. Qu'il soit ton défenseur, maintenant et pour toujours. Et que grâce à lui, à Dieu, tu saches et que tu sentes qu'il n'y a sous le ciel un seul nom qui offre aux hommes la santé et le salut, c'est le nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur. Troisième question. Quel est chers amis, notre meilleur moyen de défense dans ce combat-là. Eh bien, encore une fois, voyons ce que nous apprend l'Évangile. Tout d'abord, Jésus ne traite pas avec Satan d'une façon que je qualifierais de superstitieuse ou de magique. Il ne l'anéantit pas par sa gloire, pas du tout. Je ne suis pas en train de nier l'existence de cas de possession démoniaque pour lesquels le commandement se révèle nécessaire dans les évangiles. Jésus y a parfois recours. Toutefois, en général, Satan ne nous manipule pas en marquant notre peau de ses crocs. Il le fait en remplissant notre cœur de tas de mensonges, de doutes de toutes les sortes. Nous le voyons dans le récit du Jardin d'Éden. Lorsqu'il tente Adam et Ève, il ne se présente pas avec toutes sortes d'effets spéciaux. Il évoque des idées qui contredisent simplement la sainte parole de Dieu. Il sème le doute sur sa personne et détruisant ainsi la relation de confiance qu'ils ont avec Dieu. C'est vrai pour nous aussi. Notre meilleure défense dans notre combat contre l'influence des mensonges de Satan ne consiste pas à réciter simplement des incantations, mais à nous répéter la vérité fondamentale des Saintes Écritures. Voici ce que dit la Sainte Bible. Remarquez la façon dont Jésus utilise la Sainte Bible. C'est un des messages les plus évidents du passage. À chaque assaut du diable, Jésus répond par les Saintes Écritures. Cette stratégie correspond bien sûr à ce que nous avons dit concernant la provenance de l'attaque. Satan veut nous empêcher de distinguer la vérité. Plus encore, il veut manipuler les croyances de notre cœur. Oui, il veut faire cela. Depuis la Sainte Bible, d'après la Sainte Bible, le cœur n'est pas seulement le siège des émotions, mais le cœur est aussi la source de notre confiance, de nos espoirs et de nos engagements fondamentaux. Et voilà pourquoi tout ce que le diable insinue ou nie carrément par rapport aux promesses et à la révélation divine est contrecarré par la Sainte Bible. Car Jésus cite, par exemple, Deutéronome, chapitre 8, verset 3. Ensuite, Deutéronome, chapitre 6, verset 16. Et enfin, il cite Deutéronome, chapitre 6, verset 13. Mais au moment de mourir sur la croix, au plus profond de son agonie, il cite le psaume 22, chapitre 22, verset 2. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dans les moments de douleur ou d'émotion intense, ce qui nous vient à l'esprit et sort de notre bouche, c'est ce qui se trouve au tréfonds de notre être. Dans le cas de Jésus, dans de tels moments, ce sont les Saintes Écritures qui sortent de sa bouche. Environ 10% de toutes ces paroles sont constituées de citations de l'Ancien Testament ou d'allusions à celui-ci. Quelqu'un qui connaît bien la Sainte Bible applique à toutes ses pensées et à tous ses sentiments le filtre de cette révélation. Et lorsque les assurances, les avertissements, les promesses et les révélations de Dieu lui-même sont profondément ancrés en vous, il est extrêmement difficile à Satan de on peut dire de s'insinuer et de vous faire douter de votre salut. Vous n'êtes pas vulnérable plus du tout sur le front par lequel il peut le mieux attaquer. Je dois maintenant poser une question. Si Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ne croyait pas pouvoir faire face aux forces du mal dans le monde sans une connaissance approfondie dans son esprit et dans son cœur de la Sainte Bible, comment pouvons-nous espérer affronter, nous, la vie d'une autre manière? Vous comprenez ce que je veux dire? Vous savez, chers amis, Jésus peut nous aider à affronter la réalité du mal. C'est ainsi que je vais essayer de terminer cette étude. Je répète, Jésus peut nous aider à affronter la réalité du mal aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de nous, puisque il l'a lui-même fait en tant qu'homme. Ainsi donc, dans notre combat contre les mensonges de Satan dans notre cœur et contre ses œuvres dans le monde, nous pouvons, vous et moi, nous appuyer non seulement sur la sainte parole du Seigneur, mais sur le Seigneur de la sainte parole. Nous n'avons pas simplement accès à un livre, aussi parfait soit-il, mais nous avons accès à Jésus-Christ, qui a lui-même traversé ces épreuves d'une intensité telle que nous ne pouvons l'imaginer. Et c'est pour nous qu'il a fait tout cela, pour toi qui écoutes maintenant, comme pour moi. Fortifié par sa profonde empathie et par sa bienveillante puissance, nous pouvons donc tout surmonter à ses côtés. Amen. Nous n'avons malheureusement plus le temps pour prier ensemble, mais je vous demande simplement, s'il vous plaît, de réécouter quelques passages de cette étude, de noter ce qui vous frappe. Ensuite, avec de simples mots, faire une petite prière. Plus simples sont les mots, mieux ça vaudra. Que le Seigneur vous bénisse, car il vous aime. Au revoir, mes très chers amis. À demain matin pour la suite. Et merci, je dois dire merci Seigneur, parce qu'il a restauré ma voix. Alléluia! À 90 ans, tout est donc possible. Et si c'est possible pour moi à 90 ans, c'est beaucoup plus facilement possible pour vous, dont la plupart d'entre vous ont que la moitié de mon âge. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin pour le servir. Alléluia. Au revoir.